Revenons aux Allemands. Pour être juste en ce qui concerne ce cercle herméneutique, il faut admettre que les meilleurs penseurs allemands ne parlent pas tout simplement d'un cercle, mais d'un spirale. Est-ce qu'on dit spirale? Oui? C'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement une question de maintenir la même distance de la vérité. Mais en réalité, on s'approche de plus en plus la réalité. On s'approche de plus en plus la vérité. Par exemple, on arrive à IBG, puis on commence à étudier la Bible, peut-être un cours en grec. Et on commence avec louo, loues, loue, louemen, louete, louousin. Oh, c'est tellement difficile, n'est-ce pas? Apprendre le grec, louo, loues, loue, c'est complètement difficile. Et après 5 semaines, ce que nous avons appris la première semaine est tellement facile. C'est pas croyable. Mais ces participes, misère. Qui a inventé les participes? Et si on continue dans nos études dans le grec, après 2 ans, 3 ans, nous lisons les textes assez facilement et les participes ne sont pas si difficiles que cela. C'est-à-dire, ce qui semble être véritablement difficile, ce qui est difficile à comprendre au début, ça devient de plus en plus agréable et après un petit bout de temps, c'est déjà présupposé. C'est-à-dire, on devient de plus en plus expert dans le grec ou dans la théologie biblique ou dans quoi que ce soit. Maintenant, le plus qu'on achève, le plus qu'on commence, le plus qu'on réussit à apprendre quelque chose, le plus qu'on comprend aussi qu'il y a tant de choses à apprendre qu'on commence tout simplement, n'est-ce pas? Le plus grand expert, c'est lui qui comprend comment il ne sait presque rien. Mais quand même, en comparaison avec celui qui commence tout simplement, il est en réalité expert. C'est-à-dire, même dans le monde de vérité, ce n'est pas tout simplement un cercle d'herméneutique où on maintient toujours la même distance dans le cercle de la vérité ou de la réalité, mais on s'approche. On ne le touche jamais, mais on s'approche de cette vérité, n'est-ce pas? Donc, ça devient non pas tout simplement un cercle herméneutique, mais une espèce de spirale herméneutique. Mais quand même, ça souligne le fait que, en apprenant quoi que ce soit, ce n'est pas toujours, c'est presque jamais, une question d'apprendre tout simplement les faits indépendants ou des vérités indépendantes ou la réponse du texte à nos questions indépendantes, c'est plutôt une question de perspective, d'un certain angle de vision. Et le plus qu'on apprend, le plus qu'on s'approche de la vérité, mais on ne l'achève pas. Après tout, c'est seulement l'omniscience qui achève la vérité, qui réussit à tout comprendre, la vérité infinie. Parmi les Français, les influences sortaient du monde linguistique et littéraire. Soulignons surtout l'influence de Jacques Derrida, François Lyotard et Michel Foucault. Derrida n'est pas facile à comprendre. Il n'y a pas de hors-texte. Il disait dans la grammatologie. Il n'y a pas de hors-texte. Qu'est-ce qu'il voulait comprendre par cela? Il ne voulait pas dire, malgré le fait qu'il y a bien des personnes qui le comprennent comme cela, il ne voulait pas dire qu'il n'y a seulement que texte, dans un sens littéral, comme s'il n'y a pas de réalité du tout, hors du texte. Il voulait plutôt dire que il n'y a pas de moyen de s'échapper de l'interprétation. Pour lui, texte n'est pas tout simplement texte, c'est-à-dire des mots, mais tout ce qui doit être interprété. Donc un objet d'art, ou une culture, n'importe quoi, c'est tout le texte. Et il n'y a pas hors texte, c'est-à-dire il faut toujours interpréter ce texte, cette réalité. Nous n'avons pas d'accès à la vérité de quoi que ce soit. Nous avons toujours une interprétation de ce. Il n'y a pas hors texte. Il n'y a rien hors du texte, vous voyez? Parce que ça prend toujours une interprétation. Toujours. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Donc, si quelqu'un prétend tout simplement qu'il connaît quelque chose, c'est la vérité. Derrida répondrait, c'est l'interprétation du texte que tu penses est la vérité. Il n'y a pas d'accès au texte, il n'y a rien hors du texte. Pour François Lyotard et pour Michel Foucault, les mêmes idées sont exprimées d'une autre façon. Pour Lyotard, il soulignait surtout l'incrédulité au grand récit. L'incrédulité au grand récit. Ce que nous appelons en anglais le métanarratif. Ce que Lyotard lui-même appelait le grand récit. Et ce qu'il entend par cela, ce n'est pas qu'il y a il n'y a pas de grand récit, il n'y a pas de méta-récit du tout. Ce n'est pas ça exactement. C'est que il a toujours des soupçons en ce qui concerne les présupposés du grand récit, du méta-narratif, du méta-récit. Par exemple, les présupposés de Hegel, ou les présupposés du naturalisme, ou les présupposés de quoi que ce soit. Dans ce sens, il veut dire à peu près la même chose que Derrida, c'est-à-dire il y a toujours une interprétation. Et si on essaie d'adopter un grand récit, un grand métanarratif pour tout comprendre, on donne l'impression qu'on a l'accès à cette grande vérité quand on ne l'a pas. Il y a toujours une perspective en ce qui concerne le grand récit, le métanarratif. Et pour Michel Foucault, chaque parole est une instance de pouvoir, de puissance, de contrôler. C'est-à-dire, quand nous disons quoi que ce soit, c'est un effort de contrôler ceux qui nous entendent. C'est un effort, c'est un aspect de contrôle, c'est un aspect de gouvernance, de tout contrôler. Ce que nous appelons la vérité, ou notre croyance que c'est la vérité, en effet, c'est un aspect de contrôler une autre personne. Il faut rejeter toute prétention, donc, parce qu'il faut rejeter le pouvoir de n'importe quelle voix dans la vie, dans le gouvernement, dans la société spirituelle. Il faut avoir une indépendance. Et si on répond, eh bien, Monsieur Foucault, vos idées à ce sujet ne sont-ils pas des idées qui veulent nous contrôler? Et il admet, il dit, oui, en réalité, on ne peut pas s'échapper de ces choses. Vous devriez vous soupçonner de mes idées aussi. Après tout, il n'y a pas manière de s'échapper. Et pour lui, c'était aussi une expression de liberté sexuelle. Et contre l'impérialisme. Et donc, ça souligne toujours l'autorité individuelle, l'autorité des choix individuels. Dans ce sens, c'est un développement de l'existentialisme. Eh bien, comment comprendre ces choses? il faut admettre que, qu'assez souvent, leurs idées ne sont pas bien comprises. Des fois, leur expositeur, est-ce qu'on dit ceux qui décrivent leurs idées, leurs défendeurs, oui, c'est bien, merci. Souvent, leurs défendeurs insistent que ces hommes disent quelque chose encore plus fort qu'ils disent en réalité. Par exemple, chez Derrida, rien hors du texte. On peut aller si loin de dire qu'il n'admet pas qu'il y a de réalité hors du texte. Mais ce n'est pas exactement cela que Derrida voulait dire. Il voulait dire tout simplement qu'il n'y a pas d'accès à cette réalité hors du texte, c'est-à-dire hors de l'interprétation de la réalité. Quand même, il y a des conséquences même à cette idée. En Amérique du Nord, nous parlons aujourd'hui du Yale School of Theology, c'est-à-dire l'approche à la théologie qu'on trouve à l'université Yale. Ou chez Lindbeck, par exemple, et d'autres érudits, il souligne à maintes reprises l'importance de lire et relire la Bible, utiliser la Bible pour augmenter notre imagination, notre compréhension, notre compréhension du monde, adopter les termes, les métaphores bibliques, et ainsi de suite. Et nous autres, nous allons dire, n'est-ce pas, c'est une bonne idée, cela. Il faut reprendre la structure de réalité qu'on trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Mais Lindbeck ne parle presque jamais du monde hors de la Bible. C'est-à-dire, il parle des idées qui nous touchent, qui nous contrôlent, qui nous donnent l'imagination. Mais il ne veut pas parler de la réalité qu'on trouve dans la Bible. C'est-à-dire, la Bible elle-même fait référence à la réalité. Nous ne sommes pas sauvés par les idées bibliques, mais par le Christ qui est décrit dans la Bible. Si toutes nos idées reviennent tout simplement au texte, c'est-à-dire si les idées bibliques font référence seulement à d'autres idées bibliques, mais ne font pas référence à ce qui est dehors du texte, nous sommes sauvés en effet par des idées intellectuelles, mais pas par le Christ lui-même, pas par le fait. Donc, il faut toujours élever la question. Quel est le lien entre les idées ou nos interprétations et la réalité? Nous ne sommes pas sauvés par l'idée ou l'interprétation de la résurrection de Jésus-Christ, mais par le pouvoir, le vrai pouvoir de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, il faut élever la question, quel est le lien entre notre compréhension du texte et la réalité. Autrement, nous sommes sauvés par une espèce de gnosticisme, par des idées, tout simplement. Vous voyez? Donc, il y a des conséquences quand on parle constamment du fait qu'il n'y a pas de hors texte. Ça peut être tellement mal compris qu'en fin de compte, nous sommes tellement serrés dans notre interprétation qu'on ne peut pas parler de la vérité, vous voyez, parce que la vérité, c'est tout simplement notre idée de la vérité. Je reviendrai à ce point, comment d'essayer de mettre ces choses ensemble. Et après tout, avec, disons, Michel Foucault, si on pense que chaque parole est toujours un aspect de puissance, de pouvoir, est-ce qu'on doit se douter de la parole de Dieu? Sans doute, la parole de Dieu nous vient avec autorité. S'il faut se douter de toute autorité, il faut se douter aussi de l'autorité de Dieu. Il n'y a pas manière de s'échapper de cette conclusion dans la pensée de Foucault, malgré le fait qu'il ne s'adresse pas à ce problème. Ce n'est pas la forme d'autorité qu'il veut mépriser. Eh bien, ces idées du soi-disant postmodernisme s'élèvent en plusieurs conclusions. Premièrement, il faut se douter de toute hiérarchie. Il faut se douter de toute hiérarchie, soit dans l'Église, comme l'Église catholique, soit dans l'Église locale. Souvent dans les églises conservatrices, surtout en Amérique du Nord, il y a un aspect d'autorité qui est pas mal laide pour les postmodernes. Dieu le dit, je le crois, c'est la vérité, repentez-vous. Puis ça finit là. C'est fort, c'est rigide, c'est clair, c'est net. Mais s'il faut se douter de toute hiérarchie, il faut s'approcher aux gens d'une autre façon. Je parle de mon expérience, vous parlez de votre expérience, on se met ensemble, nous sommes pèlerins ensemble, nous sommes chercheurs ensemble, et on dit que c'est beaucoup plus humble. Et donc, des websites, des sites web, par exemple, qui donnent des réponses. Il faut se douter de ces sites, mais le mouvement émergent a inventé une autre forme de site web. C'est disparu maintenant, mais il y a 10 ans, le site, on l'appelait TheOoze.com. Comment est-ce qu'on dirait TheOoze en français? Ooze. La boue, quasiment. La boue.com. C'est-à-dire, l'idée, c'est il n'y a pas de réponse, mais je donne ma perspective, tu donnes ta perspective, on jase ensemble sur n'importe quel sujet, il y a de positions différentes, il n'y a pas de roche, c'est tout simplement la boue. Et dans cette façon, on commence à parler ensemble et voilà l'évangélisation, vous voyez. Et en fin de compte, encore une fois, il y a quelque chose là qu'il ne faut pas mépriser complètement. Il y a quelque chose qui s'y trouve dans cette position, n'est-ce pas? Si on commence avec ceux qui sont véritablement illettrés, qui ne connaissent rien de la religion chrétienne, rien de la révélation, et qui se disent postmodernes, même s'ils n'utilisent pas ce mot, et qui ont des soupçons de toute hiérarchie et tout cela, seulement leur donner une réponse claire, nette, claire, rigide et tout cela, sans essayer de les comprendre, de les entendre, de donner des raisons pour cette réponse. Ça peut donner l'apparence de quelque chose qui est tout simplement, non pas tout simplement rigide, mais old-fashioned, démodé déjà. Vous voyez? Mais quand même, il y a de bonnes réponses dans la parole en ce qui concerne plusieurs questions, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans l'Église, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui veulent comprendre la parole de Dieu, qui nous donne la volonté de Dieu, il faut quand même leur donner ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Autant que nous puissions le faire. Donc, à un côté, il faut donner ce que la Bible dit. À un autre côté, il faut être au moins gentil et ouvert et... Comment mettre ces choses ensemble? Donc, on crée un site web, laboue.com. Et tout d'un coup, ça élève la question, comment faire l'évangélisation, n'est-ce pas, avec ce groupe? Donc, des qualités du mouvement essentiellement positifs dans ce mouvement de l'Église émergente. Premièrement, premièrement, ils essaient de lire leur temps. Ils essaient, ils veulent bien comprendre leur temps culturel. Ce n'est pas une chose méchante, cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison dans ce qu'ils dans ce qu'ils lisent, mais ils essaient de lire leur temps. Et après tout, nous trouvons la même chose dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous n'avez que faire une comparaison entre le sermon de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 13, dans un synagogue, et le sermon de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17. Nous y reviendrons plus tard. Mais vous voyez, quand il parle dans un contexte où le monde est instruit d'une façon ou d'une autre dans ce que la Bible dit, ils sont soit juifs, soit païens qui ont assisté depuis longtemps dans un synagogue. Donc, ils connaissent déjà les catégories bibliques, la création, par exemple, la chute, ce que c'est le péché, les promesses de Dieu, l'attente du Messie et tout cela. Ils ont déjà ces catégories en tête, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul peut utiliser son temps en essayant de prouver que Jésus est en réalité le Messie promis. Et ce Messie promis devrait être un Messie souffrant, un serviteur souffrant. Et il utilise son temps à ce sujet, n'est-ce pas? Mais parmi les érudits à Athènes, à ce point, il n'avait jamais lu, sans doute, l'Ancien Testament, la Bible, n'avait pas de catégorie de monothéisme, il n'avait pas de catégorie biblique, et donc, il faut commencer plus en arrière, farther back. Il fallait établir un contexte. Donc, il parle de la création, du monothéisme, de la création de personnes, ce que c'est l'idolâtrie et tout cela, avant d'introduire Jésus. Je reviendrai à ce point un peu plus tard. Donc, même l'apôtre Paul avait besoin de lire sa culture. Et sa culture changeait de place en place. S'il se trouvait dans un synagogue, ce n'était pas exactement que le marché dans la ville d'Athènes. Ça ne veut pas dire que son évangile changeait. J'y reviendrai. Mais quand même, il faut comprendre notre société, il faut comprendre notre culture, n'est-ce pas? Et essayer de faire cela, c'est une bonne chose. Si le mouvement de l'Église émergente souligne cette nécessité, il faut dire que c'est une bonne chose. Nous avons toujours enseigné la transition culturelle pour nos missionnaires, n'est-ce pas? Si nous envoyons nos missionnaires à Thaïlande ou en Japon ou quelque place semblable, nous soulignons les différences de culture, la place de la famille, ou comment c'est une culture de honte, donc il ne faut jamais tout simplement corriger quelqu'un, il faut toujours... Pour plusieurs années, je conduisais des conférences pour World Evangelical Fellowship, c'était appelé dans le temps, l'Alliance évangélique du monde, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Oui, universel. Et on invitait des théologiens et d'autres personnes de plusieurs pays, de chaque continent, et même de voir comment ils se mettaient ensemble, comment ils se regardaient, comment ils jasaient ensemble, comment ils causaient ensemble. Nous trouvons aussi en France, pas au Québec, donc on ne jase plus, il faut causer. C'était toute une formation de s'apercevoir comment ça allait. Par exemple, l'Allemand entrait dans la chambre, il se donnait toujours la main, hein, toujours la main. Et s'il sortait, il se donnait encore la main. Ouais. Et les Français, mon frère! Ouais. ouais. Eh bien, j'ai été élevé au Québec. Je peux m'arranger avec cela. Les Arabes chrétiens, trois fois. Et on ne sait jamais de quel côté qu'il faut débuter. Qui nous donne des difficultés, des fois. Et les frères des Indes, du Japon, mais s'il faut se baisser jusqu'à là, ou jusqu'à là, ou jusqu'à là, ça dépend de l'âge, de la formation, de l'autorité, de la maturité, et je ne connais pas ces règles. Donc, sans doute, je me suis trompé assez souvent. Quoi dire? Et je me souviens du collègue de la Mexique qui est entré. Il pesait 300 livres à peu près. Quoi? 130 kilogrammes? Il était grand. Il descendait sur un pauvre Anglais avec ses bras ouverts. Frère! Et le pauvre Anglais a dit, « Have we been introduced? Est-ce que nous avons fait la connaissance? » Et l'Amérique, il entre et il dit, « Hi everybody, sorry I'm late. Bonjour tout le monde, je regrette que je suis en retard. » Même en commençant, il y a tant de différences culturelles, n'est-ce pas? Mais c'était surtout en discussion que c'était intéressant. J'étais toujours en charge, donc je voulais être certain que chacun avait son tour et contribuait un petit peu. Je me souviens une fois, j'ai parlé à un Japonais. Qu'est-ce que tu penses de cette question, mon frère? Je n'ai pas entendu tes pensées depuis une demi-heure. Est-ce que c'est possible que l'apôtre Paul, dans ce passage, voulait peut-être signifier que, si ce n'est pas trop orgueilleux de le penser, signalait que peut-être ceci ou cela est l'Européen. Peut-être allemand, répond. Oh non, pas possibilité de cela, c'est la folie cela. Ce que le texte dit, c'est clairement ceci et cela. Et le pauvre Japonais, il se pose la question, est-ce que je suis tombé parmi des barbares? Mais c'est seulement une question de comment faire référence dans une autre culture, n'est-ce pas? Avoir des réunions véritablement internationales, c'est difficile parce que même les formes d'expression sont tellement différentes, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul connaissait ces choses dans le premier siècle. Après tout, il traversait l'Empire. Et même la différence assez fondamentale entre le monde lettré en ce qui concerne la Bible et le monde illettré en ce qui concerne la Bible. C'est une grande différence, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas besoin d'aller en Japon pour le trouver. Les chemins de Genève seront assez maintenant, n'est-ce pas? Et dans nos grandes villes aujourd'hui, autour de la globe, nous trouvons des personnes de presque n'importe quelle race et culture et langage. À Londres, il y a 460 langues différentes utilisées sur le chemin de Londres. Probablement, c'est la même chose à Paris. Donc, former des pasteurs maintenant, c'est déjà former des missionnaires. C'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à traverser les frontières culturelles, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, si le mouvement émergent, si l'Église émergente s'intéresse à ces questions culturelles, comment parler à ceux qui sont illettrés, qui ont leurs propres présupposés et tout cela? Ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que toutes leurs réponses sont sages. J'y reviendrai. Mais quand même, poser la question, c'est une bonne chose. Et je comprends pourquoi un grand pourcentage de leurs leaders sont sortis des églises extrêmement conservatrices, qui n'ont pas donné de temps à cette question, qui parlent tout simplement à d'autres personnes qui sont conservatrices. Ils n'ont pas appris comment parler aux gens non chrétiens et non modernes. Maintenant, il faut admettre quand même que c'est un problème plus grand en Amérique qu'en Europe. Parce que malgré le fait que nous avons de grands endroits en Amérique du Nord, extrêmement séculaires, nous avons des endroits du Bible Belt. On ne parle pas de la ceinture biblique, sans doute, mais the Bible Belt, où c'est difficile de trouver des personnes qui se ne disent pas chrétiens. Mais c'est pas concevable ici, n'est-ce pas? Mais dans ce monde, d'être conservateur, c'est tout simplement les présupposés de ce contexte, et ils n'ont pas besoin de penser d'une façon plus large. Mais ici, nous avons tellement perdu notre héritage du Grand Réforme que c'est presque pas concevable de penser que nous pouvons vivre toutes nos vies dans un cercle tellement conservateur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas exactement le même problème ici. Mais quand même, c'est remarquable que la grande majorité de ces leaders du mouvement émergent sortent, en effet, viennent de ces églises extrêmement conservatrices. Deuxièmement, ils veulent toujours poursuivre ce qu'ils appellent l'authenticité. L'authenticité. Et il ne faut pas les mépriser pour cela. N'avez-vous pas eu l'expérience de sortir d'un culte un dimanche matin? Et malgré le fait que vous ne le diriez jamais en public, néanmoins vous avez pensé, est-ce que le Dieu vivant était véritablement avec nous aujourd'hui? Ou est-ce que c'était seulement le rite, la tradition? Nous parlons de célébrer Dieu ou de l'adorer franchement, encore une fois, les mêmes chansons. Encore une oration un peu manquée. Encore des prières qui sont seulement des clichés. Oh, on ne doit pas parler de ces choses en public, sans doute, mais n'avez-vous jamais pensé ces choses? Et on manque l'authenticité? Parce que nous savons tous que des fois, soit en privé, soit en public, il y a des réunions qui sont remplies de l'expérience de Dieu personnelle, corporelle, pleine, remplie d'authenticité, n'est-ce pas? Et après un petit bout de temps, ces leaders du mouvement émergent, ils ont insisté qu'une raison pour cette inauthenticité, c'est tout simplement la tradition, la répétition de ce qu'on a toujours fait. Ça ne touche pas la vie de personnes quotidiennes, ça ne touche pas la vie de personnes postmodernistes. Et ils veulent rattraper l'authenticité dans la spiritualité chrétienne. Dans ce sens, ce n'est pas méchant, n'est-ce pas, d'espérer de rattraper l'authentique, ce qui est rempli d'authenticité. Troisièmement, en général, ces leaders veulent évangéliser les personnes qui sont le moins touchées par nos églises traditionnelles. En Amérique du Nord, surtout, il y a des places dans la société, dans la culture, où les églises ne touchent presque rien. Des endroits géographiques, comme Washington State, l'État de Washington, Seattle, ce qu'on appelle le Pacific Northwest, dans les États comme New Hampshire, Vermont, Massachusetts, c'est-à-dire les États de New England States, où franchement, on peut trouver des villes de 20 000 personnes sans une seule église évangélique. C'est pas rare. Malgré le fait qu'il y a des endroits où, comme j'ai déjà dit, à Oklahoma, c'est difficile de trouver des personnes qui se ne disent pas chrétiennes. Mais en général, non pas tout simplement du point de vue géographique, mais du point de vue de société, il y a des endroits dans la culture où, franchement, nous ne touchons presque personne. Par exemple, dans la télévision, dans le film, dans les médias. Presque tous les leaders ne sont pas chrétiens et on ne les touche pas. Dans l'opéra, dans les arts, nous avons beaucoup plus de scientifiques qui sont chrétiens que de leaders dans les beaux-arts. On ne les touche pas. Et, en réalité, ce sont les leaders de ce mouvement qui veulent s'adresser à ce défi. Comment toucher les vies de ces personnes qui sont plus distancées de ce qui est le moyen, s'il y a un moyen, dans la vie américaine. Et maintenant, en France, ce n'est pas exactement la même chose, ou en Suisse, sans doute, parce qu'il y a tant d'endroits dans la société qui ne sont pas vraiment touchés par l'Évangile, qu'il y a des défis presque partout. Mais quand même, de poser la question, comment évangéliser ce groupe, ou cette ville, ou cet endroit du pays, ou l'Alsace, par exemple, où c'est beaucoup plus conservateur, ou Paris, où c'est beaucoup non pas tout simplement libéral, mais rempli de pluralisme, de personnes de n'importe où dans le monde, et de musulmans, ou quoi que ce soit. Ça exige nécessairement qu'on pose des questions culturelles, n'est-ce pas? Et assez souvent, ces personnes posent des questions. Comment évangéliser ceux qui sont les plus éloignés de l'Évangile? Ce n'est pas une mauvaise question à élever, n'est-ce pas? Quand même, je vais parler d'une autre église maintenant. Cette église, je vais vous donner le nom de cette église à la fin. Cette église se trouve à la ville de New York. Une église locale qui a été établie il y a à peu près 27 ans par un pasteur presbytérien. Maintenant, il n'y a pas un grand nombre de presbytériens à New York. À New York, c'est pas mal séculaire, c'est pas mal dur, il n'y a pas un grand nombre de chrétiens du tout. Sa dénomination lui a envoyé pour établir une église et il a commencé avec une trente-cinquaine de personnes dans un appartement dans la ville. Aujourd'hui, cette église a à peu près 4 000 membres dans 3 assemblées et cette église a aussi débuté une autre trentaine d'églises dans la ville de New York. Et donne assistance, donne d'aide à une autre 200 églises dans des centres urbains dans l'Amérique du Nord. Comment évangéliser les grandes villes, les grands centres urbains? Et la plupart des membres de cette église ont été convertis. En effet, parce qu'ils n'étaient pas des presbytériens qui attendaient l'arrivée d'une église presbytérienne. Ils étaient des non-convertis. Et l'âge moyen de cette église, c'est 34. Donc, ce ne sont pas des vieux non plus. Ce sont des jeunes. Et cette église, Redeemer Presbyterian Church, on l'appelle, l'Église du Rédempteur, à New York City ne se dit pas émergente. C'est-à-dire, cette Église a toutes les forces, toutes les avantages, toutes les forces du mouvement émergent sans se dire émergente. C'est seulement un moyen de démontrer qu'il ne faut pas se dire émergent pour avoir les forces, les avantages du mouvement émergent. On peut avoir les avantages et les bonnes perspectives du mouvement émergent sans être membre de ce mouvement. Ce n'est pas tout simplement l'Église émergente qui a ses perspectives d'évangélisation, ses perspectives culturelles, ses perspectives comment évangéliser ceux qui sont illettrés du point de vue de la Bible. Ce sont un grand nombre d'églises qui ne sont pas membres de ce mouvement. Donc, malgré le fait qu'il y a de bonnes choses à apprendre de ce mouvement, franchement, on peut apprendre ces bonnes choses hors du mouvement. Ce n'est pas tout simplement mouvement émergent ou être traditionnel. Parce que dans un certain sens, cette église presbytérienne à New York City, remplie de théologie, leur culte, avec maintenant orchestre, et musique assez conservatrice, et exposition de 50 minutes chaque matin, avec des Bibles ouvertes, avec une théologie riche et bien appliquée, et tout cela, ces choses sont plus, soi-disant, traditionnelles. N'est-ce pas? Ces messages sont bien appliqués à New York City et tout ça. Oui, 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 j'y reviendrai. Mais quand même, ce n'est pas émergent ou traditionnel. C'est extrêmement traditionnel du point de vue de fidélité à l'Évangile, la parole de Dieu, se soumettre à son autorité, comprendre la culture et tout cela. Mais quand même, cette Église se positionne en effet comme la voix de Dieu envers la culture de New York City pour aimer la ville, pour faire du bien dans la ville, pour évangéliser la ville, sans donner un esprit de condamnation, mais quand même dire qu'il y a une différence entre chrétiens et non-chrétiens. Donc il y a un esprit d'exclusion. Et aussi d'inclusion. Comment achever ces choses, vous voyez? Donc, si vous vous trouvez dans une place en France ou en Suisse où il faut choisir entre une église émergente ou une église traditionnelle, je voudrais toujours poser la question, pourquoi pas tout simplement une église biblique? Qui va nécessairement souligner les meilleurs avantages des églises traditionnelles, mais à cause du cœur évangéliste, va toujours poser des questions comment être fidèle dans la prédication de l'Évangile, dans la vie des évangéliques, envers la culture, en connaissant qui sont nos copains, nos collègues, nos citoyens. Ça fait partie d'être fidèle, n'est-ce pas? Comment les évangéliser? Eh bien, c'est le temps encore pour quelques questions avant d'aller plus loin. Oui, c'est pour cette raison que j'ai insisté que parmi les 6 caractéristiques du modernisme, Descartes commence avec le jeu et pas avec Dieu. Mais le postmodernisme commence avec je, mais en tire d'autres conclusions. Le modernisme pense que, commençant avec le je peux atteindre la vérité publique. Le postmodernisme commence avec le je, mais insiste que ce je est tellement fini, réduit, tellement planté dans une certaine circonstance culturelle, que ce jeu ne peut jamais s'échapper de ses contraintes. Et donc, la vérité publique, la vérité objective n'est pas possible. C'est toujours la vérité, c'est toujours ma vérité, ou la, notre vérité. C'est pour cette raison qu'il y a bien de personnes qui disent, comme j'ai déjà mentionné, que le postmodernisme, c'est tout simplement le modernisme post, c'est-à-dire c'est modernisme qui est plus mûr ou qui est plus âgé. Et ils ont raison, mais ça fait une tellement grande différence que ça vaut la peine quand même d'essayer de comprendre les différences. Monsieur Brown a mentionné un livre que je ne connaissais pas, publié l'année passée en France avec le titre Postmodernité. Donc apparemment ce mot revient, oui? Un chapitre du livre. Apprendre à vivre. Par qui? Par Luc Ferry. Apprendre à vivre. Et donc apparemment dans quelques cercles de la France, on n'a pas peur de ce mot, mais je reviendrai dans quelques minutes à la question de comment comprendre le mot, parce que c'est compris d'une sens différente dans plusieurs pays, comme nous allons voir. D'autres questions? Oui. Je voudrais dire à ce point qu'un chrétien bien informé ne devrait pas se dire tout simplement moderniste ou postmoderniste. Donc réagir d'une façon négative envers le postmodernisme, ce n'est pas une position sage. Il y a des compréhensions dans le modernisme qui, de mon point de vue, ont raison, qu'il faut protéger. Et il y a des perspectives dans le postmodernisme aussi qui ont raison, qu'il faut protéger. Et aujourd'hui, en réalité, je fais la différence entre le postmodernisme doux et le postmodernisme dur. Et le postmodernisme doux, je dirais, nous devrions accepter. Dans un sens, comme nous allons voir, avec la critique quand même chrétienne. Et je dirais de plus que le postmodernisme doux et le modernisme doux reviennent à peu près au même point. Mais j'y reviendrai cet après-midi. Je voulais faire la différence afin que nous puissions comprendre les questions d'aujourd'hui, mais il faut admettre que ces questions en réalité sont déjà un peu démodées, dépassées par d'autres écrivains et érudits qui ont déjà changé la forme du débat un petit peu. Donc, l'égoïsme n'est pas l'invention soit du modernisme, soit du postmodernisme. C'est l'invention de la chute. C'est l'invention d'Adam et d'Ève, en fin de compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence de forme de présentation de l'égoïsme dans les mouvements différents, n'est-ce pas? Et ça fait partie de comprendre notre culture, d'identifier ces éléments différents pour mieux les approuver quand ces choses font partie de succès d'être humain est fini, mais à la fois ces choses doivent être confrontées quand ils lancent leurs défis contre Dieu, quand elles lancent leurs défis contre Dieu. Donc je veux prendre quelques minutes maintenant pour apprécier les bonnes choses dans le postmodernisme. Avant d'essayer de répondre un peu. Comme le monsieur ici a mentionné, on ne peut pas s'échapper du fait que nous sommes finis. Nous ne voulons pas être orgueilleux, que notre compréhension n'a pas toujours raison, et ainsi de suite. Il y a de bonnes choses à apprécier dans le postmodernisme, n'est-ce pas? Donc, je vais mentionner plusieurs points qui sont des avantages. Il faut toujours ajouter d'autres détails, mais les autres détails attendront les réunions cet après-midi. Premièrement, j'ai souvent dit dans les réunions universitaires que le postmodernisme ne va pas assez loin. Ce n'est pas que ça va trop loin. Dans un certain sens, ça ne va pas assez loin. Le postmodernisme souligne le fait que nous ne sommes pas infinis. Nous ne sommes pas omniscients. Nous sommes finis. Donc, nous avons toujours un point de vue. Ils ont raison. Les chrétiens disent la même chose, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas Dieu. L'omniscience n'est pas une caractéristique de Dieu que Dieu lui-même peut partager avec nous. C'est un attribut de Dieu seul. Même dans l'éternité, nous ne connaîtrons pas toutes choses. Nous serons toujours, pour toute éternité, finis. Mais en plus, nous ne sommes pas tout simplement finis, mais aussi pécheurs, rebelles, réduits dans notre compréhension à cause de notre rébellion. Donc, dans ce sens, nous allons plus loin que les postmodernes. C'est pour cette raison que la Bible parle du fait que nous sommes aveugles, que nous sommes morts dans nos péchés, que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu, comme 1 Corinthiens 2,14. C'est-à-dire, ils ont un autre point de vue. Un autre point de vue établi non pas tout simplement par le fait qu'ils sont finis, mais par le fait qu'ils sont tombés. Est perdu, est donc mort du point de vue spirituel. Donc, j'insiste avec mes étudiants à l'université que franchement, le postmodernisme n'est pas suffisamment profond dans leur critique de la prétention de modernisme. Mais quand même, ils ont raison. Et deuxièmement, ça signale aussi que nous sommes nécessairement liés à une certaine perspective. Toute connaissance humaine est la connaissance de perspective. Il n'y a pas de moyen de s'échapper de cela. Maintenant, la conclusion de ce fait sera différent chez les chrétiens et chez les naturalistes. Parce que je prétends que malgré le fait que toute ma connaissance est la connaissance d'une certaine perspective, je peux en partie adopter la perspective de Dieu. Wow! Mais cela se dépend d'un Dieu qui connaît tout et qui parle dans les langues humaines. Même Dieu ne peut pas nous donner toute sa connaissance, parce que nous ne serons jamais omniscients. Mais Dieu peut, par l'accommodation. Est-ce qu'on parle de l'accommodation? Accommodation? Par accommodation? Calvin, Jean Calvin, parlait souvent de l'accommodation, mais je ne sais pas si c'est le mot qu'il utilise en français. C'est-à-dire, Dieu s'accommode aux limites des êtres humains en parlant en hébreu. ou en grec. C'est encore sa parole, mais c'est notre parole. Est-ce que Dieu utilise dans les relations entre père et fils dans l'éternité passée le français? Ou l'hébreu? Oh, je n'ai aucune idée comment le père et le fils s'adressent l'un à l'autre dans l'éternité passée. Je n'ai aucune idée du tout. Certes, ce n'est pas l'anglais, mais à part de cela, je ne suis pas certain. Mais quand Dieu nous parle, il utilise nos langues. C'est un acte d'accommodation. Donc, Dieu lui-même ne dit pas tout ce qu'il sait de l'exil, par exemple. Mais ce qu'il dit en ce qui concerne l'exil, c'est ce que Dieu lui-même sait est vrai. C'est-à-dire, la vérité de ce que Dieu dit est liée à la caractère, la fidélité de Dieu. Et il nous donne des perspectives de Dieu, mais pas toute la perspective, les perspectives de Dieu. Il ne peut pas faire cela parce que nous ne sommes prêts à les accepter, à les adopter, à les recevoir parce que nous ne sommes pas omniscients. Mais quand même, tout ce qu'il dit est quand même vrai. Et en grande mesure, je peux adopter ces perspectives en ce qui concerne la mesure de notre compréhension de sa révélation publique. Parmi les Allemands, nous avons ce modèle de spirale herméneutique. Il y a un autre modèle développé par Michael Polanyi, que j'apprécie beaucoup. Surtout si vous avez un arrière-plan mathématique, vous allez apprécier ce modèle. Sinon, peut-être vous n'allez jamais l'utiliser. Avec une espèce de graphe. Est-ce qu'on parle d'un graphe? D'un graphique? Où la mesure de temps se trouve ici. Et la mesure de distance de réalité se trouve ici. Donc, on commence avec un jeune homme, disons, 6 ans. C'est-à-dire 6 ans, 12 ans, 18 ans, 24 ans. Donc, il est âgé de 6 ans. Et dans sa compréhension, à ce point, il est bien éloigné de réalité. On lui pose la question, comment est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et parce que ce jeune homme a été élevé dans une famille chrétienne, dans une bonne église, il dit, mais la Bible enseigne que Dieu m'aime. Ou, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Est-ce que la Bible dit Dieu aime Jean? Jean qui? Jean-Claude. Est-ce que la Bible nous enseigne que Dieu aime Jean-Claude? Puis il pense. Non, mais la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et je fais partie du monde, donc il aime Jean-Claude. Est-ce que Jean-Claude a bien compris Jean 3,16? Eh bien, le postmoderne va commencer avec la question, est-ce que Jean-Claude comprend le mot monde? Cosmos, en grec. Est-ce qu'il le comprend? Est-ce qu'il comprend que chez Jean, cosmos, le plus souvent, pas toujours, mais 95%, signifie non pas tout simplement tout le monde, mais le monde en rébellion contre Dieu. Le monde humain, perdu et éloigné de Dieu. Est-ce qu'il se pense éloigné et perdu quand il se dit dans ce monde? Est-ce qu'il comprend ce que Jean entend par monde? Car Dieu a tant aimé le monde, le verbe aimer, qu'est-ce que c'est en grec? Est-ce qu'il comprend le verbe agapao? Et la grande discussion à travers plusieurs siècles, quels sont les mots pour l'amour, dans le monde grec, le monde païen, le monde chrétien et tout cela. Est-ce qu'il comprend cette discussion? Il y a un bon livre par Robert Joly, publié par les presses universitaires de Bruxelles. Le vocabulaire chrétien de l'amour, est-il original? Est-ce qu'il a jamais lu ce livre? Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a un Fils. Qu'est-ce qu'il va comprendre par Fils? Son Fils unique? Ah, ce mot est aussi vraiment difficile en grec. Est-ce qu'il comprend véritablement Jean 3, 16? Est-ce qu'il comprend? Et ces questions pour le postmoderne fonctionnent pour signaler en effet que sa compréhension est tellement petite que franchement il ne comprend presque rien, et puis c'est une question de perspective et tout cela, hein? Mais je dirais, certes, il comprend Jean 3,16, mais c'est la compréhension d'un jeune homme de 6 ans. Mais sa compréhension répond à la question, comment est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce qu'il a donné une bonne réponse? Oui, il y a bien des détails qu'il ne comprend pas, mais quand même, sur notre graphique, à l'âge de 6 ans, il est encore assez distancé de la réalité, mais il commence à l'âge de 12 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans. Il va s'approcher de cette ligne, n'est-ce pas? Peut-être il va assister à l'Institut biblique de Genève. Et en fin de compte, après quelques années, peut-être il va venir à Trinity Evangelical Divinity School pour faire son doctorat de troisième cycle. Oui. Et peut-être il va écrire une thèse sur le sujet « L'amour dans les écrits de l'apôtre Jean, selon leur arrière-plan juif. » 290 pages. Extrêmement technique. Publié par les presses universitaires de France, ou peut-être par Morzibek à Tübingen. Quelques-uns de nos thèses doctorales sont publiés par Tübingen, Morzibek. À ce point, est-ce que sa compréhension de ce que Jean 3,16 veut dire, est-ce que sa compréhension a touché la ligne de réalité? Non, jamais. D'ici 24 milliards d'années, est-ce que ça va toucher la ligne? Non, jamais. Parce que notre petit Jean-Claude, en fin de compte, n'est pas Dieu. Donc, si nous exigeons la compréhension parfaite et exhaustive, si nous exigeons la compréhension omnisciente pour dire que quelqu'un comprend la vérité, ce que nous exigeons, c'est que nous soyons Dieu. Mais si nous sommes prêts à admettre qu'il y a une connaissance humaine qui est moins rempli, moins exhaustif, moins omnisciente. Est-ce qu'on peut parler de moins omnisciente? Qui n'est pas omnisciente, hein? Mais c'est une vraie connaissance basée, en effet, sur une approche à la réalité, une approche de plus en plus près, mais jamais avec les prétentions de l'omniscience. Donc, nous sommes prêts à parler de la connaissance de la réalité. Mais ça exige toujours un aspect de foi. Ça exige toujours la confession que nous ne sommes pas Dieu, que nous devrions toujours être corrigibles dans nos connaissances. Même dans quelque chose si central à la fois que disons la confession que Jésus est Dieu. Si vous pouvez me corriger de la révélation de Dieu en ce détail, je dois être corrigible. Maintenant, je pense que vous allez avoir des misères à me corriger à ce point. Mais quand même, en principe, je dois être corrigible, n'est-ce pas, parce que je ne suis pas Dieu. Il y a deux sortes de perspectivisme. Est-ce qu'on parle de perspectivisme? Ben, je viens d'inventer un mot. Je suis un bon Allemand. Les Allemands inventent toujours les mots. C'est-à-dire ceux qui admettent, qui avouent, en effet, que toute notre connaissance est la connaissance de perspective. Il y a deux sortes de personnes qui prennent cette position. Ceux qui l'admettent, ceux qui ne l'admettent pas. C'est-à-dire, dans ce sens, nous sommes tous postmodernes. Il n'y a pas moyen de l'échapper, parce que nous sommes finis, nous sommes faillibles, nous sommes corrompus, nous ne serons jamais Dieu, nous ne serons jamais omniscients, et donc il faut admettre que notre connaissance est nécessairement la connaissance de perspective. La seule chose à comprendre à cet égard pour le chrétien, c'est que malgré le fait que notre connaissance est la connaissance de perspective, nous insistons qu'en mesure nous pouvons avoir la perspective de Dieu et sa révélation. Pas d'une façon omnisciente, mais nous pouvons nous aligner tellement près des détails que Dieu lui-même à révéler que nous pouvons adopter en mesure cette perspective divine. Donc, le fait que nous sommes faillibles et finis ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler de la vérité. Eh bien, j'y reviendrai après le repas.